Nous allons célébrer la troisième messe de la journée. Je suis en rouge parce que c'est la... C'est la terre à salut, vénère et fête. Sainte Edith Stein. C'est une philosophe. C'était l'assistante de Husserl, le grand phénoménologue. Il y avait à cette époque-là, enfin pendant la guerre, Heidegger et Husserl. Phénoménologie pratique. C'est une... Les deux, d'ailleurs, chacun à sa manière, ont ceci de remarquable par rapport à tous les autres. Sages de... qu'ils avaient vraiment une recherche de la vérité, quoi. Le fait ils ont frayé un chemin comme ça dans la recherche de la vérité, surtout en Allemagne. Mais ça a été, ils ont joué un rôle très 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 important. Et elle, c'était l'assistante. Elle le corrigeait même. Si je peux dire, quand Edith Stein. Elle était juive. Et voilà, de l'âge de 20 ans à 40 ans, elle était parmi l'osphère, j'allais dire, du monde intellectuel, était connu. Hein. Karl Wojtyla, qui est devenu ensuite le pape, était lui aussi quelqu'un qui était dans cette lancée quoi, spéculative, philosophique, métaphysique de Husserl. Alors c'est lui qui a canonisé Edith Stein. Il savait ce qu'il faisait, bien sûr. Il l'a proclamé patronne de l'Europe, des juives, famille juive. Et elle a laissé tomber, au fond, là. Il était croyant dans sa famille, il était très croyant. Il croyait à l'avenue du Messie, comme ça, mais il n'était pas du tout chrétien, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Elle a laissé tomber complètement, là. La prière, la religion, le bon Dieu, tout ça. À l'âge de 19-20 ans, et puis puisqu'elle est rentrée dans cette... Et puis donc elle a... Un jour elle est tombée sur un livre qui s'appelle... oui, c'est la vie de Sainte Thérèse d'Avila, autobiographie. Et en lisant ce livre, le Seigneur lui est tombé dessus. Elle s'est fait baptiser tout de suite. Et puis elle a terminé au four crématoire, elle a été gazée et brûlée par Hitler à Auschwitz. Hitler disait, Hitler l'a poursuivi, hein, il l'a poursuivi nommément, il ne voulait pas entendre dire. Il disait, mes pires ennemis sont les juifs catholiques. Les juifs catholiques sont mes pires ennemis. Son autre pire ennemi, c'est ça. Attends, vous savez bien, elle est entrée au Carmel, mais à l'âge de 52 ans, elle a été emportée à Auschwitz. Elle avait réussi à se cacher pendant 2 ans, mais... Mais elle était poursuivie nommément, il fallait vraiment qu'on l'apprenne. Mais sa maman disait, moi Jésus. Écoute, d'accord, Jésus, mais enfin, quand même. Pourquoi est-ce qu'il a dit? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu? C'est très bien qu'il a dit qu'il était Dieu parce que c'est la vérité, puis c'est tout. C'est le bon Dieu lui-même, celui qui est venu dans le monde. C'est fou quand même. Elle faisait partie de ces... Il faisait la queue comme ça, tout nu, entièrement nu. Il faisait la queue pour rentrer dans la chambre à gaz. Et elle aimait particulièrement ce psaume. Elle disait, voilà, comme dans ton peuple, quand tu es à l'abattoir, me voici. Et elle avait lu dans la biographie de Sainte Thérèse d'Avila ceci, que le roi du ciel, en nous créant, a créé un trône où il s'est assis. Parce que notre âme crée par lui comme un diamant avec de multiples temps de rayonnement incarné, voilà, différentes demeures. On est au centre, c'est ça. Il nous crée et il reste parce que, et c'est le roi de gloire qui reste toujours là. C'est pour ça qu'on dit que le Père, dans la très sainte Trinité, que le Père n'est jamais envoyé. On le dit dans le Gloria, on dit gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et pas sur terre aux hommes qui aiment. Nous te glorifions. Te rendons grâce. Dieu, le Père tout-puissant, roi du ciel. Le roi du ciel, c'est celui qui est là, au milieu de la première incarnation diamantale, comme une sphère de feu transparent. Il est au milieu là. Et il reste, pour, on peut dire, pour l'éternité. Et puis bien sûr, il va, d'accord, et on ne peut pas oublier une chose pareille. Puisqu'il est toujours là. Hein? Le roi du ciel, c'est le Père Tout-Puissant, est assis au cœur, au centre de tout nous-mêmes. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle savait que Saint Joseph, c'était celui qui désignait, parce que c'est lui qui l'a vécu de la manière la plus intense, la plus substantielle, on peut dire, la plus continuelle. Cette présence de la paternité du roi du ciel qui est le Père. Et il a continuellement aspiré la substance divine de la gloire de Dieu dans le Père qui est au milieu de nous toute sa vie. Il y a un lien très puissant entre la paternité féconde de Dieu, sa royauté céleste dans au milieu de nous. Saint Joseph dit, tu ne peux pas faire oraison, tu ne peux pas être transformé que si tu t'engloutis à l'intérieur de ce qui se passe, d'ailleurs, à l'intérieur de ce qui transforme le monde du ciel et de la terre. Voilà, donc nous demandons pardon. La troisième messe tous les soirs, c'est pour demander pardon. Pour notre génération mauvaise et substantiellement pervertie. Puisque la suprême et substantielle perversion consiste à dévaster au milieu de tous les hommes cette présence du roi. Du roi du ciel, assis au milieu de chacun d'entre nous. Cette irruption en sa présence au milieu de nous, pour le dévaster jusqu'à la fin du monde. Voilà l'acte que notre génération, dont notre génération, rendu universellement responsable. Et la dévastation est d'autant plus grande que on ne la regarde pas, qu'elle ne nous intéresse pas, qu'elle ne nous afflige pas, qu'elle ne nous désole absolument pas. Alors que c'est le seul tourment. C'est probablement l'unique raison pour laquelle le Verbe de Dieu s'est incarné dans la Vierge Marie il y a 2000 ans. C'est à cause de cette dévastation dernière de l'humanité que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Mais ce serait impensable que les prêtres de l'Église ne célèbrent pas une messe au moins chaque jour pour demander pardon pour ça. Ce serait impensable. C'est impensable. Alors, le Saint-Père nous a demandé de célébrer cette troisième messe pour demander pardon jusqu'à la fin. Pour obtenir la grâce impossible de briser l'opacité invincible du méchant. Et de pouvoir recevoir une grâce très spéciale, qui est la grâce des derniers temps, des rois fraternels de l'univers, et des enfants qui sont sous l'autel. La grâce d'accueillir et de recevoir. Le réengendrement de la terre dans la mise en place du corps spirituel pour le monde nouveau. Et le faire avec Saint Edistan, c'est très grand, parce que c'est très beau, c'est très fort. Parce que le peuple d'Israël doit passer au feu et être réduit ensemble dans l'Holocauste, qui est le sien, pour participer à cette demande de pardon. Et finalement, il faut bien regarder. Ils sont les seuls à demander pardon de manière, si je puis dire, vivante. C'est pour ça qu'elle est une icône. Elle est une mère pour l'ouverture des temps. La malédiction qui est sur nous se transforme. En demande de pardon.